Avec Suno Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous parlons des essais cliniques. Ces outils clés pour l'innovation, bien sûr, mais aussi pour la sécurité des traitements et la qualité des soins. Des expérimentations lancées lorsque les chercheurs ont établi leur projet, leur idée, et que s'engagent les tests sur l'humain. Des essais strictement encadrés par la loi pour évaluer le rapport entre l'efficacité et la tolérance des nouveaux produits de santé. En 2016, près d'un millier d'essais cliniques avaient été conduits en France. Ils concernaient des médicaments. 45% d'entre eux se concentraient dans le secteur de la cancérologie, discipline phare de la recherche française. Ces essais s'articulent en plusieurs phases, des tests précliniques en laboratoire ou sur des animaux, première évaluation de la toxicité, des volontaires entrent à leur enjeu, phase clinique de type 1, en ressortiront les conditions d'emploi, le mode d'assimilation, phase 2-3 qui vont permettre d'évaluer l'effet, éventuellement d'aboutir au résultat escompté, une autorisation de mise sur le marché. La dernière phase, elle intervient au cours de la commercialisation pour suivre à plus long terme l'effet du produit. Et la France, eh bien, elle se range au 7e rang des pays européens en nombre d'essais en cours, des procédures précises, assez longues pour garantir la sécurité, des formalités plus nombreuses qui, selon certains industriels, retarderaient la mise sur le marché de produits innovants, des essais cliniques encadrés, éthiques, qui peuvent aussi manquer de transparence lorsque les résultats négatifs ne sont pas publiés. Les essais cliniques, mode d'emploi aujourd'hui dans Priorité Santé. Avec nous en studio, professeur Christophe Le Tourneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du département d'essais cliniques précoces à l'Institut Curie à Paris. Vous coordonnez l'essai Shiva. Vous nous expliquerez en quoi il consiste tout à l'heure. Avec nous également Bruno Toussaint, bonjour.
Bonjour.
Directeur de la rédaction du magazine Prescrire. Et Alexandre Regnault, bonjour.
Bonjour.
Vice-président de France Biotech qui se présente comme l'association des entrepreneurs de l'innovation en santé. Vous êtes chargé du dossier des essais cliniques précisément. Nous verrons comment sont conduits ces essais au Bénin avec le professeur Achille Massoukbodji, directeur du Centre d'études et de recherche sur le paludisme, associé à la grossesse et à l'enfance, directeur de l'Institut de recherche clinique du Bénin. Et en fin d'émission, nous retrouverons en ligne Emmanuelle Amar, directrice du registre des malformations en Rhône-Alpes, le REMERA, plus ancien des registres des malformations congénitales de France, qui avait lancé l'alerte au sujet des bébés nés sans bras dans plusieurs départements du pays au cours des dernières années. Le mois dernier, eh bien, une nouvelle enquête a été lancée à la demande de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.
Priorité santé sur RFI.
Nos trois invités donc pour évoquer ces tests essentiels pour démontrer l'efficacité, l'innocuité des traitements. Bruno Toussaint, le grand public connaît un peu ce vocabulaire des essais, les mots comme cobaye, placebo. On va commencer par une description très simple. C'est un processus qui est long, qui est complexe, avec des étapes encadrées. Justement, comment ça se passe entre l'idée, on a un petit peu dans l'imaginaire de chacun l'image du savant qui a ce fameux trait de génie, cette intuition ou même le fruit d'un long travail, et puis jusqu'au moment où il va tester son produit. Comment ça se passe?
C'est une longue histoire.
C'est une longue histoire, mais on va commencer étape par étape.
Voilà. Première étape, je vais déclarer mes liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, puisqu'on va parler de médicaments. Et donc, je n'ai aucun lien d'intérêt avec aucune firme pharmaceutique, comme tous les rédacteurs de Prescrire, qui est financé par les abonnés. Alors, c'est une longue histoire parce que, bien sûr, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup de situations où on a besoin de progrès thérapeutiques, même si on n'est déjà pas démuni. Il y a déjà toutes sortes de solutions. Et une étape importante, un autre point de vue à prescrire au service des praticiens, des médecins, des pharmaciens et des patients, c'est de chercher déjà quel est le produit de référence, quelle est la solution de référence pour soigner telle ou telle situation. À partir de là, on pourra concevoir les essais qui vont montrer éventuellement, c'est ce qu'on cherche bien sûr, le progrès qui sera assuré peut-être par le nouveau médicament dans telle ou telle situation, à tel ou tel rang de traitement, etc.
Ça veut dire que vous compulsez ces essais, vous allez dans le détail pour essayer de comprendre ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de nouveau, ce qu'il y a d'étrange.
Alors nous, à Prescrire, on n'est pas des chercheurs, on est bien d'accord. Hein. On ne produit pas d'essais, on ne conçoit pas d'essais. Ce que nous faisons, une partie importante de notre travail, c'est d'apprécier dans quelle mesure tel ou tel essai va répondre ou a répondu à une question qui se pose concrètement du point de vue des patients, de leur maladie. Donc ils sont dans telle ou telle situation, ils ont telle ou telle maladie, tel ou tel cancer à tel ou tel stade, ils ont déjà eu tel ou tel traitement, ils sont encore là, mais bien sûr, leur vie est en jeu. Donc, à partir de là, quelle est la meilleure option déjà disponible et sur quels critères on va pouvoir comparer le nouveau médicament? Est-ce que ça va être simplement un taux d'enzyme, un taux de globules, une image radiologique, ou est-ce qu'on va pouvoir engager une réflexion sur la qualité de vie ou plus encore plus important, bien sûr, la durée de vie tout simplement? Et ce qu'on voit, c'est que souvent, les essais cliniques commencent par des critères, on va dire, intermédiaires qui sont des images ou des résultats sanguin, dont on espère qu'ils seront corrélés à la réalité de la qualité de la vie et de la durée de survie, mais il y a souvent des déceptions. Donc pour nous, c'est un temps très important de bien discerner, bien mettre au clair quel est le traitement de référence. Parce que vous avez dit en introduction de l'émission que le dossier d'AMM, les autorités regardent dans quelle mesure le médicament est relativement efficace et relativement pas trop nocif. On a parlé d'innocuité. En fait, les médicaments, c'est toujours plus ou moins dangereux, hein, faut dire les mots en clair. Bien. Mais dans cette exigence, il n'y a pas de preuve de progrès. C'est-à-dire que les autorités n'exigent pas de preuve que le nouveau médicament va faire mieux pour soigner réellement les personnes. Bon, bah, c'est la règle du jeu en France comme ailleurs, dans le monde.
Ce qui explique d'ailleurs qu'en pharmacie, on trouve plusieurs médicaments pour traiter exactement la même chose avec le même contenu, on va dire.
Ce qui explique qu'effectivement, la plupart des nouveaux médicaments n'apportent pas de progrès quand ils arrivent sur le marché, et même avec quelques années de recul, et même en cancérologie, eh bien beaucoup n'apportent pas de progrès avéré. Alors quelques-uns en apportent, bien entendu, c'est pour ça que c'est très important de faire des essais, mais bien conçus, y compris du point de vue éthique, et surtout du point de vue éthique, et en particulier donc du point de vue du comparateur.
Alors Alexandre Renion, on parle de médicaments, mais ces essais cliniques, ce n'est pas uniquement pour les médicaments, c'est aussi pour des systèmes, c'est aussi pour des protocoles, c'est aussi pour des, on va dire, des petits accessoires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement à ce sujet?
Alors effectivement, les essais cliniques vont être une phase décisive pour la commercialisation ou l'arrivée, la disponibilité dans l'arsenal thérapeutique de plusieurs produits de santé, que ce soit des médicaments ou également des dispositifs médicaux, qui est un autre produit de santé réglementé, ou également ils peuvent servir à évaluer des stratégies thérapeutiques. Ce qui est très important, c'est de voir que ce cadre a été construit en France et puis en Europe, au-delà, hein, dans un but à la fois de sécurisation des essais, mais également de protection des personnes qui se prêtent à la recherche. Donc peut-être en deux mots, si je peux établir un tout petit peu ce cadre-là pour la France. Donc vous avez un comité d'éthique, en France on appelle ça les comités de protection des personnes, qui vont revoir chaque protocole et donner un feu vert, un avis. Et l'avis favorable du comité de protection des personnes est une condition juridiquement indispensable pour initier un essai. Et ces comités d'éthique vont évaluer précisément tous les aspects éthiques des protocoles, et notamment pour faire le lien avec une des premières explications de Monsieur Toussaint, ils vont vérifier que le protocole se base sur l'état acquis de la science et sur le dernier état des connaissances scientifiques pour évaluer évidemment la pertinence de la recherche, parce qu'il ne s'agit pas d'effectuer des recherches qui ne seraient pas scientifiquement et en tout cas éthiquement pertinentes. Et puis vous avez en tout cas pour la grande majorité des essais une autorisation qui va être donnée par ce que le droit européen appelle l'autorité compétente. Donc en France, c'est l'ANSM, l'Agence Nationale de Sécurité des Médicaments et des Produits de Santé.
Avec ces différents intervenants, forcément, Alexandre Regnault, il y a des délais entre le départ, l'idée, entre l'acceptation par l'autorité, on va dire, administrative et éthique, et puis le début des recherches à proprement parler, au moins des tests sur les personnes.
Absolument. Alors, il faut un délai de révision de ces protocoles, hein, pour permettre à la fois à l'agence et au CPP de se prononcer. C'est une étape importante. Donc, et là, je voudrais faire un point très clair. Les promoteurs des essais, donc les industriels qui vont être à la recherche, qui vont être à l'initiative de ces nouveaux produits, et en tout cas, certainement, c'est le cas à France Biotech, ne réclament pas un allègement de ces formalités. Mais en revanche, on est très conscient de respecter, de la nécessité de respecter les délais. Et donc, ce pourquoi on se bat chez France Biotech, c'est que ces délais qui sont dans la réglementation, hein, qui sont limités à 45 ou 60 jours au maximum suivant les recherches, soient respectés. Pourquoi ? Parce que c'est très important, c'est un enjeu d'attractivité pour la France et pour que les recherches restent en France. Tout à l'heure, vous citiez le fait que la France a le 7e rang en Europe. Malheureusement, la pente n'est pas forcément très très bonne dans les dernières années, parce que pour un certain nombre de raisons sur lesquelles on pourra revenir si vous le souhaitez, à la fois l'ANSM et les CPP prennent plus de temps que ces délais qui sont imposés par la réglementation.
On va reparler tout à l'heure cette dimension de compétitivité. On va en rester pour l'instant à la science, si vous le voulez bien, à la santé. Professeur Christophe Letourneau, vous êtes l'un des acteurs, justement, on parlait des différents personnages très importants dans cette dynamique de recherche, chef du département d'essais cliniques précoces de l'Institut Curie. Dans le jargon, on dit un investigateur. De quoi s'agit-il ?
Un investigateur est un médecin donc qui participe à une recherche clinique, à un essai clinique. Donc c'est la personne qui est finalement responsable de tout ce qui va se passer chez les patients qui sont inclus dans un essai clinique, dans un établissement de santé.
Alors, professeur Letourneau, ce qui est spécial justement pour les essais en cancérologie, c'est que contrairement aux autres pans de la médecine, aux autres disciplines, eh bien là, les personnes sont des patients et sont des malades.
Oui, c'est-à-dire que pour la première évaluation d'un médicament chez l'homme, les essais cliniques en cancérologie se font chez des personnes qui sont malades, puisque bon, les traitements contre le cancer sont des traitements qui sont la plupart du temps pas des traitements anodins et qui seraient difficilement envisageables d'administrer à des personnes saines.
Alors, la cancérologie en France, c'est particulièrement à la pointe dans la recherche, dans l'innovation. Comment est-ce qu'on l'explique ?
Alors ça c'est difficile à expliquer, mais c'est certain que il y a une culture en France de recherche en cancérologie, que ce soit en recherche fondamentale, mais également en recherche de stratégie de traitement. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, il existe une compétition au niveau international dans ce domaine, et c'est vrai que la France et les investigateurs français ont toujours souhaité participer à cette recherche de façon active, que ce soit pour le développement de nouveaux médicaments, de nouvelles stratégies, mais même également l'utilisation de la génomique pour le choix des traitements, etc.
Sans mettre du tout de côté la qualité de ces essais, la performance des équipes de recherche, est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme aussi de rentabilité, d'intérêt économique, parce que le cancer, c'est un secteur qui est rentable. Je pense à ça parce que nous, quand on traite des questions de santé dans Priorité Santé, on voit sur le paludisme, sur les maladies négligées, où il y a très peu d'argent investi dans la recherche, mais on le dit sur d'autres maladies, les maladies, on va dire, du Nord, diabète, cancérologie. Là, il y a de la recherche, là, il y a de l'innovation, là, il y a de l'argent.
Mais... c'est certain que le cancer, malheureusement, est une maladie dont l'incidence augmente. Donc, il y a de plus en plus de patients atteints de cancer. Pourquoi ? Parce que l'on vit plus longtemps, hein, essentiellement, en dehors de tous les facteurs de risque qui sont connus. Et le cancer est une maladie grave dont, malheureusement, encore beaucoup de gens meurent aujourd'hui. Donc, il y a des progrès à faire et donc, il y a des investissements à faire. Donc, c'est nécessairement un domaine, effectivement, où il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'interlocuteurs.
Alors, des recherches qui passent par des essais. Personnellement, professeur Christophe Letourneau, vous coordonnez l'essai Shiva. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, l'essai Shiva, c'est un essai de stratégie thérapeutique. On en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est pas un essai avec des nouveaux médicaments, mais on utilise d'anciens médicaments, mais qu'on va essayer de donner de façon plus intelligente, si vous voulez, chez des patients atteints de cancer. Mais c'est un essai parmi d'autres. Alors, l'essai Shiva 1 est terminé, avec des résultats qui ont maintenant conduit à un essai Shiva 2, d'ailleurs, qui est financé par une fondation issue d'une industrie pharmaceutique, donc qui nous a permis de réaliser cet essai Shiva 2 qui est en cours, et puis il y aura un essai Shiva 3, mais c'est un essai parmi tant d'autres, si vous voulez, et pour nos patients qui sont atteints de cancer, c'est une option parmi d'autres également, avec des essais de phase 1 de nouveaux médicaments ou des essais de phase 2 qui sont en cours, parfois de phase 3. Mais voilà, donc là, vous touchez du doigt un essai de stratégie qui sont quand même moins fréquents, puisqu'ils sont moins financés par les promoteurs industriels, puisque les promoteurs industriels cherchent effectivement à montrer que leurs médicaments font mieux que les autres. Donc, les essais de stratégie résonnent de façon différente, c'est-à-dire utiliser de façon différente les traitements, et souvent d'ailleurs dans des populations un peu plus restreintes, on essaie de donner les médicaments vraiment aux patients chez qui on pense que ça va apporter un bénéfice. Donc c'est une manière de voir un peu différente.
Professeur Christophe Letourneau, Alexandre Regnault, Bruno Toussaint, vous restez avec nous. On va se retrouver dans un instant pour poursuivre notre échange sur les essais cliniques. D'abord, un reportage.
Priorité santé sur RFI.
Ce témoignage, c'est celui de Rachida. Cette femme de 58 ans a eu un cancer de l'ovaire en 2013. Sa maladie l'a contrainte à subir une ablation de l'utérus, des ovaires, des trompes, une partie du rectum. Suite à quoi, elle a suivi une chimiothérapie standard. En 2017, son médecin lui annonce une récidive, une tumeur du rein cette fois. Elle décide alors de participer à une recherche biomédicale appelée Atalante et s'est conduite au sein de l'hôpital de l'Hôtel Dieu à Paris. Témoignage de Rachida avec Raphaël Constant.
En 2017, récidive, à nouveau une chirurgie. Et là, mon oncologue me propose une chimio standard. Donc, comme j'ai eu une récidive, j'ai dit non, on ne va pas la recommencer. Je lui ai dit voilà, on m'a informé qu'il y avait un traitement basé sur l'immunothérapie qui était très intéressant, très prometteur. J'ai dit à mon oncologue, je souhaite faire cet essai clinique. Elle n'était pas trop au courant. Elle a vérifié si je rentrais dans les critères d'inclusion. Être âgée de 18 ans ou plus, être atteinte d'un cancer de l'ovaire.
Alors racontez-moi de quel essai clinique il s'agissait et comment il s'est déroulé.
Donc il s'agit d'une étude de phase 3 et c'est une recherche basée sur l'immunothérapie, randomisée en double aveugle. Ça veut dire qu'il y a un tirage au sort. Il y a dans cet essai clinique, il y a une recherche sur deux groupes. Il y a un groupe qui reçoit le traitement chimio standard et un autre groupe qui reçoit la chimio standard plus la nouvelle molécule. Et en double aveugle, ça veut dire que ni mon oncologue ni moi ne connaissons le traitement administré. Donc en fin de compte, moi je ne sais pas si j'ai la nouvelle molécule. Mon traitement, c'était de la chimio tous les 15 jours. Une séance, par exemple à J1, j'avais une chimio très importante qui durait au moins plus de 6 heures. Et 15 jours après, à J15, j'avais une petite chimio entre 1 heure et 2 heures. J'avais 12 séances ainsi. Et une fois la chimio terminée, après on passe à une autre étape, c'est le traitement d'entretien, une sorte de maintenance pour éviter la récidive. On m'administre la nouvelle molécule toutes les 3 semaines. Pour l'instant, on le continue. On continue ce traitement jusqu'à toxicité du produit, jusqu'à ce que je ne supporte plus les effets secondaires, ou sinon jusqu'à progression de la maladie.
Et alors, quel est le suivi de cet essai clinique ?
Déjà, à la base, dans le cabinet du médecin, il est tenu de nous expliquer toutes les informations sur l'essai clinique. Donc, de vive voix, il nous informe de tout. Des bénéfices, des risques, de la méthodologie. Par exemple, pour tel produit, on me dit il va donner beaucoup d'hypertension. Pour un autre, il y aura peut-être des problèmes dermatologiques, des fois des palpitations. Après, il y a les symptômes banals, la fatigue, les nausées. Pour l'instant, il n'y a pas de récidive. Je fais des scanners environ tous les 3 mois. Tout passe par mon oncologue. Il n'y a pas d'autre intermédiaire, non. Je ne connais pas le promoteur de la recherche. Alors, pour certaines consultations, il y a une attachée de recherche clinique qui vient de temps en temps à certaines consultations pour me donner un questionnaire basé sur la qualité de vie du patient. Si je pouvais marcher, faire des courses, sortir, si tout va bien dans ma vie familiale, si j'ai pas de problème financier. J'essaye de donner sur une échelle de 1 à 100, je mesure mon état physique. On s'engage pas dans une recherche à la légère. Il faut vraiment être conscient que on participe aussi à une recherche. Ça va engager des résultats futurs pour valider aussi après un médicament, un nouveau traitement. Si on n'est pas sûr de respecter les instructions, on ne s'engage pas. Par exemple, les scanners, c'est toutes les 3 semaines. Les bilans sanguins, c'était tous les 15 jours. Il y a des consultations cardiaques. Il y a plus de surveillance qu'une chimio standard. Il y a un certain rythme et il faut le respecter.
Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui ? Vous êtes plutôt optimiste sur cet essai clinique ou c'est plutôt quelque chose que vous remettez en question ?
Non, je suis sereine et aussi heureuse déjà d'avoir entrepris cette recherche. Au fond de nous, on est quand même un petit peu, ou un peu beaucoup, on est convaincu qu'il y aura des chances de guérison. C'est ce qui compte pour le malade. Gagner du temps, gagner encore de la vie.
Le sentiment de vrai pour la collectivité est de reprendre une part active dans la lutte contre la maladie. On vous retrouve en studio. Je vais vous demander vos commentaires après cette illustration recueillie par Raphaël Constant, professeur Christophe Letourneau. On sent cette femme non seulement engagée, mais très très bien informée.
Oui, non, c'est admirable, effectivement. Cette femme a très bien compris le protocole et manifestement il lui a été très bien expliqué, ce qui est fondamental. Elle est engagée dans la prise en charge de sa maladie et ce qui est important, c'est qu'effectivement les essais cliniques, c'est pas juste quelque chose d'isolé à un moment donné, hein, ça fait partie du parcours de soins du patient, hein, c'est-à-dire qu'à un moment un patient va participer à un essai clinique, puis il y aura aussi les traitements classiques, etc. Et donc là, elle a bien exactement tout à fait compris cela avec exactement la randomisation, le tirage au sort, le fait que potentiellement elle a un placebo. Elle a compris ce que ça signifie, mais elle comprend également que si ça se trouve, elle a accès à un médicament de demain. Ce sera peut-être pas un médicament de demain, mais ce sera peut-être un médicament de demain et peut-être qu'elle aura été parmi les premières à l'avoir.
Bruno Toussaint, très important justement cette dimension d'information que les participants se livrent à l'exercice en toute connaissance de cause. C'est aussi une manière de les protéger.
Une manière de les protéger et de une manière pour eux de contribuer à la construction des connaissances. On a bien entendu qu'elle a bien compris qu'il y a des risques pour la peau, pour le cœur, pour l'hypertension, pour toutes sortes d'organes qui a priori ne sont pas touchés par le cancer dont elle était atteinte. Et a priori, on imagine que les traitements du cancer ne vont pas aller au-delà du cancer. Mais malheureusement aussi, tous les médicaments font beaucoup d'effets ici ou là sur le corps et les médicaments du cancer aussi. Donc il est très important effectivement que les personnes suivent bien le programme, on va dire, d'examen, de suivi de leur état de santé et pas seulement de leur maladie et participent bien à ça de façon très précise et signalent bien tout ce qui leur arrive. Parce que bien sûr, il y a beaucoup d'effets indésirables qu'on peut prévoir d'après la nature de tel ou tel médicament, mais il y a aussi beaucoup de choses à découvrir. Et par exemple, elle parlait d'immunothérapie et on s'est rendu compte que chez certains patients, les médicaments du cancer qui sont du domaine de l'immunothérapie ont des résultats très intéressants en efficacité, mais chez certains patients, il y a aussi une accélération de la progression du cancer. Donc c'est l'inverse de ce qu'on voulait. Donc c'est aussi une aventure, c'est aussi une découverte et c'est très important d'y participer très sérieusement comme elle en témoigne bien et ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur d'entendre des personnes qui savent à quel point elles sont utiles à la construction des connaissances.
À la construction des connaissances, justement, il y a cette connexion entre l'industrie et l'éthique, c'est souvent là quand même, mais c'est vrai, Alexandre Regnault, là on l'entend, on voit que cette personne s'engage pleinement. Est-ce que c'est une réflexion aussi qu'ont les industriels? J'imagine que oui, garder toujours en tête quoi qu'il arrive, on est dans le domaine de la santé, on n'est pas dans l'expérience, un peu comme ça, comme des savants fous, on est vraiment dans du concret et dans quelque chose de très protégé. Tout à l'heure, on parlait des délais, ces délais, finalement, c'est un élément parmi d'autres. Le principal, c'est la protection des personnes aussi qui se déclarent bénévoles pour participer à ces essais.
Ah bien sûr, c'est absolument fondamental. Et les promoteurs industriels, ou les promoteurs au sens large, d'essais cliniques, en sont tellement convaincus que de toute façon, il leur appartient, à eux, dans la façon dont ils conçoivent les protocoles, d'avoir toujours en tête la protection des personnes qui se prêtent à la recherche. Et au-delà des protocoles, je pense par exemple à ce qu'on appelle le document d'information. Il y a un document d'information qui va être remis à la personne qui se prête à la recherche, qui va avec son pendant, qui est le formulaire de consentement éclairé, qui va être signé par cette personne. Eh bien, le document d'information va être revu à la loupe par le comité d'éthique, le fameux CPP dont on parlait. Et je peux vous dire que dans certains cas, les CPP n'hésitent pas à poser des questions, à faire des remarques, à demander des corrections, etc. pour s'assurer que le document est rédigé de manière la plus intelligible possible, en fonction également, j'allais dire, du public, c'est-à-dire des capacités de compréhension de la personne.
Que ça s'adapte.
Et évidemment, comme on peut l'imaginer, il y a certaines personnes qui sont particulièrement protégées, comme les mineurs. Alors, évidemment, on ne va inclure dans des essais cliniques des mineurs, voire des enfants, que lorsque c'est évidemment scientifiquement absolument nécessaire. Et là, l'information sera adaptée. On peut même imaginer, je crois que ça existe dans certains cas, vraiment de très jeunes enfants, parfois même avant l'âge d'avoir acquis la lecture. Mais quoi qu'il en soit, il y aura toujours ce souci d'information qui, là encore, sera scruté de très près par les comités d'éthique.
Tout de suite, on va prendre une question d'un auditeur.
Priorité santé sur RFI.
À Maroua, au Cameroun, on retrouve en ligne Youssouf. Bonjour Youssouf.
Bonjour Caroline, bonjour à vos invités.
On vous écoute Youssouf.
Ok, je me demandais comment on pourrait expliquer le fait que malgré les innombrables essais cliniques qui sont faits sur les médicaments, il arrive toujours que des polémiques y surviennent et par la suite les médicaments sont enlevés du marché. Comment peut expliquer cela?
Oui, c'est vrai, Youssouf, hein, Bruno Toussaint, je m'adresse à vous. On a eu dans l'actualité récente des noms de laboratoires mis en avant. Je ne vais pas forcément les citer, quoique oui. Par exemple, Servier, pour ne pas le nommer, le plus récent, le plus retentissant. Il y a eu aussi des produits de santé, les prothèses mammaires. Tout ça avait reçu normalement des autorisations. Derrière, il y a scandale, derrière, il y a procès. Comment on en arrive là?
Globalement, parce que le processus d'autorisation de mise sur le marché n'est pas assez exigeant en termes de qualité scientifique et de réponse aux questions. On a entendu tout à l'heure le témoignage de Rachida qui participe à un essai randomisé, donc c'est-à-dire tirage au sort, et avec double aveugle. C'est très bien, mais ce n'est pas le cas de tous les essais qui sont utilisés pourtant pour obtenir une autorisation de mise sur le marché, y compris en cancérologie. Et grosso modo, il y a facilement 40 ou 50% des essais où il n'y a pas au moins un des deux éléments dont on vient de parler là, tirage au sort ou double aveugle. Et puis aussi, il y a la question du nombre de personnes incluses dans les essais, qui se mesure en général quelques dizaines, quelques centaines. Alors quand on accumule ces points faibles de ces essais, eh bien les connaissances dont on a parlé tout à l'heure sont de médiocre qualité, on ne sait pas très bien ce qu'on fait, et quand le médicament est diffusé ensuite sur l'ensemble de la population, ça n'est plus quelques dizaines, quelques centaines, mais des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui ne sont pas aussi sélectionnées que celles qui sont incluses dans les essais cliniques, eh bien on découvre beaucoup de conséquences. Alors parfois, ce sont des conséquences qui ne sont pas si graves que ça, mais parfois ce sont des conséquences très graves. Et en particulier, les effets indésirables au long cours sont généralement très peu évalué par les essais cliniques, y compris de phase 3. Et les essais de phase 4, dont vous avez parlé en début d'émission, c'est-à-dire la surveillance l'évaluation des médicaments après la mise sur le marché, bien globalement, ce sont des essais qui sont qui sont lentement mis en œuvre, parfois même pas du tout mis en œuvre, donc c'est un problème. Et puis, comment vous dire ça? Ce sont des essais qui ne font pas l'objet de beaucoup de promotion, on va dire ça, ni beaucoup d'attention globalement de la part des firmes. Et puis surtout, ils arrivent alors que le médicament est déjà sur le marché, donc c'est déjà trop tard en quelque sorte.
Tout à l'heure, j'avais cette question en tête, Alexandre Regnault. Quelle proportion de produits franchissent le cap des essais, c'est-à-dire vont aller jusqu'à la commercialisation? Je dis par exemple 1000 projets. Combien de médicaments vendus, pour être schématique, pour se donner un ordre d'idée? C'est possible de le faire ou pas?
À peu près un.
Un sur mille?
Oui, à peu près, tout domaine confondu. Hein. Et si on part vraiment du tout début, des molécules qui vont être pré-testées, etc. Donc c'est vous montrer effectivement l'ampleur de la sélection, si j'ose dire, qui va être faite à la fois en englobant bien sûr les phases pré-cliniques puis cliniques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de produits qui ne sont pas destinés, in fine, à atteindre le patient et seuls ceux qui parviennent.
Qu'est-ce qu'on va savoir de ces échecs? Bien sûr, quand ça marche, il y a des publications, ça fait même parfois la une des journaux. Par contre, Alexandre Regnault, quand ça ne marche pas, c'est aux oubliettes ou il y a des informations publiées là-dessus?
Non, ça dépend. Je pense que ça dépend des produits, ça dépend des domaines thérapeutiques concernés, ça dépend de la loi qui peut être applicable et qui évolue, parce qu'il y a un cadre juridique qui évolue, qui est de plus en plus strict sur les publications. Puis ça dépend aussi de la politique de l'industriel. Je crois que ce qui est important, c'est que au-delà de on va dire résultats positifs, résultats négatifs, ce qui est vraiment important, c'est que soit accessible à la communauté scientifique, c'est-à-dire aux personnes personnes qui sont capables de traiter l'information, l'ensemble des informations pertinentes qui vont arriver de ces essais, si vous voulez. Mais peut-être juste un mot également pour revenir sur la question précédente. Les différentes affaires qu'on voit se développer elles sont très différentes les unes des autres en réalité. On voit bien à chaque fois que l'histoire est très différente. Tout à l'heure, vous citiez les prothèses mammaires. Bon, c'est un cas assez unique parce que d'abord, il s'agit pas d'un médicament, donc c'est pas un produit qui juridiquement est soumis à AMM. Et puis surtout, c'était un cas de fraude manifeste.
Oui, puisqu'il avait détourné des produits en mettant des gels qui n'étaient pas du tout destinés à la santé dans des produits de santé.
Donc c'est très unique. Bon, mais au-delà de ça, il y a une vérité qui est celle que, et ça malheureusement c'est la réalité un peu, je dirais, médicale, c'est que l'ensemble des effets, certains effets très rares, ne pourront être identifiés qu'au cours de la vraie vie et de l'utilisation sur la population générale. Puisqu'en réalité, on sait que si on voulait détecter tous les effets indésirables possibles, il faudrait tester les médicaments sur une population infinie pendant un temps infini.
Oui, mais je pense à un autre produit, la dépakine, les effets sur des femmes enceintes. Il n'y a pas d'essai sur les femmes enceintes puisque c'est éthiquement interdit. Il y a des soupçons, il y a des avis aussi, des mises en garde, bien évidemment, sur certains produits. Mais là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas tester. Comment est-ce qu'on peut se prémunir de ce genre de choses? Il y a des avertissements. Bruno Toussaint, peut-être que sur ce sujet, vous voulez réagir.
Oui, on peut, bien sûr, mais je voulais faire un pas en arrière. Il faut faire attention. On dit essai négatif, parce que l'essai n'a pas montré d'efficacité ou de progrès avec le nouveau médicament. Mais ce sont quand même des connaissances très utiles. C'est très important de partager ces connaissances-là, parce que bien sûr, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de progrès, mais c'est très important de savoir ça. Ça va éviter de faire un troisième essai pour montrer, ah bah tiens, finalement c'est négatif. Ben oui, on le savait déjà.
Oui, mais est-ce que c'est pas là où les comités de façon antérieure regardent le projet en disant non, ça ils n'ont pas toute cette connaissance, toute cette transparence, elle n'arrive pas jusqu'à eux?
Alors, ça progresse. C'est la notion importante de registre d'essais cliniques. Il est très important. Depuis quelques années, il est obligatoire pour que les résultats de l'essai soient publiés dans une revue scientifique. Il est obligatoire au préalable de déclarer le protocole de l'essai dans des registres publics. Ce qui permet à chacun, mais c'est du travail, on est bien d'accord, de vérifier que oui, qu'est-ce qui est devenu tel et tel essai? Pourquoi il est arrêté? Où est la publication, etc.? Alors évidemment, c'est pas très glorieux, pas très valorisant de publier des résultats qui montrent que finalement l'essai n'a pas montré d'efficacité. Mais on a appris des choses sur les effets indésirables de ce médicament et cet échec est en soi une notion importante pour continuer d'autres recherches, pour éviter du gâchis, des essais de double ou triple emploi. Donc c'est vraiment très important. Et tout à l'heure, on a entendu que ça dépend de la politique de l'industriel. Nous, à Prescrire, on espère que ça va surtout dépendre de l'éthique de chaque scientifique et des exigences des pouvoirs publics.
Et on va voir tout de suite comment ça se passe du côté du Bénin.
Priorité santé sur RFI.
Où l'on retrouve le professeur Achille Massoumbodji. Bonjour.
Bonjour, Madame Paris.
Vous êtes directeur du CERPAGE, le Centre d'études et de recherche sur le paludisme associé à la grossesse et à l'enfance, directeur de l'Institut de recherche clinique du Bénin. En quoi consistent, professeur Massoumbodji, les essais cliniques que vous conduisez?
Les essais cliniques que nous conduisons s'intéressent, comme tous les essais, à des médicaments potentiels dont on vérifie l'innocuité, l'efficacité, etc. Mais nous nous préoccupons. Allô?
Oui, non, je vous écoute.
Nous nous préoccupons, lorsque nous faisons, nous acceptons, nous discutons d'un certain nombre d'essais, nous nous préoccupons de la destination de ces médicaments-là. C'est important pour nous que les médicaments sur lesquels nous travaillons puissent, et en utilisant avec la collaboration de nos populations, puissent être mis à la disposition de nos populations. Ça, c'est important pour nous, ça fait partie d'un problème important.
Une utilité locale, c'est pour ça que vous travaillez notamment sur le paludisme et également sur l'envenimation, sur les morsures de serpents.
Tout à fait. Il faut que ces produits aient une utilité locale et aussi qu'il y ait une politique de commercialisation des firmes pharmaceutiques qui s'en occupent de façon à rendre ces médicaments financièrement accessibles à nos populations. Parce que si on fait des essais cliniques au Bénin pour des médicaments qui finalement sont commercialisés à un coût tel que les Béninois ou les Africains ne peuvent pas
y avoir accès.
Y accéder, c'est pas intéressant pour moi.
Dans le cas particulier des morsures de serpents, des antivenins, comment est-ce que ça se passe, professeur Massoud-Boudji? Parce qu'on se dit, ça doit être très dangereux si les personnes prennent un placebo quand elles sont mordues par un serpent. Comment ça se passe?
On n'utilise pas forcément des placebos dans tous les essais cliniques. Tout à l'heure, un des collègues qui intervenait a dit que il y avait un traitement de référence par rapport auquel on comparait le nouveau traitement éventuellement. C'est dans le cas des envenimations, c'est effectivement ce que nous faisons. Il existe un certain nombre d'antivenins sur le marché qui ne sont pas forcément de très bons antivenins parce que ne sont pas adaptés au type de serpent que nous avons chez nous. Ou alors, il y en a au moins un ou deux qui sont bien adaptés, mais ils sont très chers. Et donc, nous, quand nous faisons ce type d'essai, nous soignons avec le médicament, le sérum antivenimeux, en utilisant comme traitement de référence un autre traitement. Parfois, il n'y a pas d'antivenin concernant ce type de serpent-là. À ce moment-là, on utilise celui-ci, c'est ce qu'on a fait un effet pragmatique, et on voit par rapport au traitement habituel, parce que dans tous les cas, les populations réagissent toujours d'une façon ou d'une autre. Il y a le tradipérapeute, etc. Donc on a toujours des éléments de comparaison, et il y a les taux de mortalité, par exemple, antérieurs à la mise en place de l'essai clinique par rapport au taux de mortalité sous essai clinique. Toutes ces comparaisons-là permettent d'apprécier la qualité de l'antivenin, son innocuité, etc. Voilà.
Une dernière question, professeur Massoud-Boudji, qui concerne le protocole d'essai que vous lancez au sujet du paludisme, avec une population très spécifique qui est concernée, les femmes enceintes. Comment est-ce que vous faites justement avec toutes les précautions qui s'imposent pour le bébé à naître?
Alors, il y a deux choses. Notre essai concerne un vaccin. Un candidat vaccin contre le paludisme de la femme enceinte, parce que ce paludisme de la femme enceinte a un certain nombre d'effets délétères extrêmement importants sur la femme elle-même, mais sur le bébé à naître et pendant les premières années de sa vie, au moins jusqu'à 5 ans. Donc, on s'aperçoit que lorsque la femme enceinte peut être vaccinée avant sa première grossesse, cela la protège. Dans le cas spécifique du candidat vaccin que nous testons ici au Bénin, bien qu'il s'agisse d'un vaccin destiné à la femme enceinte pour lutter contre le paludisme au cours de la grossesse, en fait, la vaccination s'effectue avant la grossesse, avant la première grossesse. Donc, nous travaillons avec des personnes, des femmes qui sont en capacité de procréation, qui ont un désir de procréation et qui disent « nous sommes d'accord pour entrer dans l'essai », ce qui fait que c'est un essai qui va être relativement long parce que il faut vacciner, voir les effets de la vaccination, la production des anticorps, etc. Et puis, voir, in fine, la qualité de l'enfant, si on peut parler ainsi, la qualité de l'enfant qui va naître.
Nécessité de beaucoup, beaucoup anticiper. Merci infiniment à professeur Achille Massoud-Boudji. Je rappelle que vous êtes directeur du Serpage au Bénin.
RFI à Cotonou, 90 FM.
Le temps passe vite, trop vite. On arrive à la conclusion de cette émission, professeur Christophe Letourneau. Le cadre légal en France, cette procédure des essais cliniques, est-ce qu'aujourd'hui vous la jugez adaptée, par exemple, à votre discipline particulière, la cancérologie?
Alors, elle est parfois un peu longue et c'est important de le souligner. Pourquoi? C'est que, vous l'avez dit au départ, en fait, il y a une compétition pour avoir accès aux nouvelles molécules, une compétition internationale. Et les promoteurs se tournent vers les pays qui sont les plus rapides. Alors, pourquoi c'est important d'être rapide? C'est parce que on a envie de donner accès aux nouvelles molécules à nos patients. Et si on a envie de le faire, il faut qu'on soit sélectionné pour pouvoir utiliser ces nouvelles molécules. Et je vais vous donner des exemples. On a des médicaments d'immunothérapie dont il a été démontré qu'ils amélioraient la survie, mais qui ne sont pas encore disponibles parce que le temps d'avoir une autorisation de mise sur le marché prend du temps, ce qui est normal, etc. Mais on a d'autres essais thérapeutiques avec des molécules similaires, d'autres compagnies, et on a envie de participer à ces essais cliniques pour donner accès justement à ces immunothérapies d'autres laboratoires dont on sait déjà qu'elles sont efficaces par ailleurs. Et donc c'est vrai que pour ça, plus on est rapide et plus on a de chance en tant que pays de pouvoir participer à ces essais cliniques et donc de pouvoir donner ces ces molécules à ces patients. Donc c'est vrai que on a envie d'être rapide, on comprend qu'il faut pas être trop rapide non plus parce qu'il faut faire les choses correctement, mais c'est vrai qu'on aimerait parfois que les délais soient plus courts afin qu'on puisse ouvrir plus d'essais et donner plus accès à l'innovation à nos patients.
En tout cas, c'est vraiment une question complexe. Hélas, le temps m'empêche de continuer ce débat sur ce sujet parce qu'il y a une vraie dimension entre, on va dire, la rentabilité et la protection des personnes. C'est vraiment le débat de fond qui se pose, avec aussi ce dont on parlait tout à l'heure, les marchés, la place de la France et aussi de son industrie. Mais ça, c'est un autre secteur. Ce n'est pas vraiment le sujet de priorité santé. En tout cas, merci. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission consacrée aux essais cliniques. Je suis désolée d'avoir pas pu davantage vous donner la parole aux uns et aux autres. Merci à vous, professeur Christophe Letourneau, chef du département d'essais cliniques précoces de l'Institut Curie à Paris. Merci beaucoup Bruno Toussaint, directeur de la rédaction du magazine Prescrire, et à vous Alexandre Regnault, vice-président de France Biotech. Et on va maintenant aborder un sujet présent dans l'actualité française depuis des mois, les interrogations après des naissances de bébés sans bras dans plusieurs départements français. Et à ce propos, d'ailleurs, les ministres de la Santé et de l'Écologie avaient jugé insupportable l'absence de réponse, l'absence d'explication. Une affaire au sujet de laquelle vous avez alerté les autorités sanitaires depuis longtemps déjà. Emmanuel Amar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice du registre des malformations en Rhône-Alpes, le REMERA, le plus ancien registre de ce type, malformations congénitales en France. Alors, on parle de plusieurs départements français concernés. Emmanuel Amar, une nouvelle enquête est lancée à la demande de la ministre de la Santé. Où est-ce que l'on en est aujourd'hui ?
Pour le moment, comme vous l'avez dit, la ministre de la Santé et le ministre de l'Écologie ont déclaré qu'il était insupportable que ces naissances restent sans explication. Donc une étude a été diligentée par ces deux ministres, mais nous n'avons aucune information sur cette étude, par qui elle est faite, apparemment par l'ANSES, mais on ne peut pas imaginer que Santé publique France participe, puisque depuis le début, Santé publique France a nié la réalité de ces naissances. Donc on n'en sait pas plus.
L'enquête est relancée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même comment toute cette affaire a commencé, Emmanuel Amar ?
Alors, elle a commencé par la déclaration d'un médecin généraliste qui a appelé une cellule d'épidémiologie de l'Ain, nous n'y travaillons pas, nous notre registre, pour signaler la naissance de deux enfants vraiment concomitantes, à quelques mois d'écart, deux enfants nés sans bras. Cette cellule nous a aussitôt alertés. Nous avons commencé les investigations, nous ne travaillons pas dans l'Ain, et là nous avons découvert trois bébés nés les uns à côté des autres dans des petits villages qui étaient nés sans bras. Donc nous avons fait le premier signalement à Santé publique France le 28 février 2011 et à partir de là, ça a été des signalements répétés puisque ces trois cas sont venus s'ajouter un quatrième, puis un cinquième, un sixième, un septième. Et en 2014, nous avons remis un rapport demandant instamment à Santé publique France de procéder à des investigations complémentaires. Nous avions interrogé les maires et avions pu éliminer tous les facteurs de risque connus. Et là, je pense que Santé publique France n'a pas pris la mesure en son temps, parce qu'il n'avait pas en interne, peut-être aussi de compétences à même d'évaluer le risque et surtout la gravité de ces naissances. Et c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés là en 2018 avec une déclaration de Santé publique France qui expliquait qu'il n'y avait pas d'excès de cas dans l'Ain, alors que nous en sommes à 8 cas. 8 enfants nés sans bras dans un tout petit périmètre de ce département et qu'il y a d'autres agrégats, concentrations de cas en excès en Bretagne et en Loire-Atlantique.
C'est ce qu'on a vu au cours des dernières semaines. Justement, ce qui vous a alerté, Emmanuel Amar, ce n'est pas le nombre de cas sur un grand territoire, mais bien sur des toutes petites portions de territoire, dont on va dire même quasiment dans des voisinages.
Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est cette agrégation, c'est une concentration de naissances en excès par rapport à quoi ? À ce qu'on attend. On connaît la fréquence habituelle de ces naissances. Quand il n'y a pas de main, c'est une naissance pour 10 000. Là, sur ces 6 années, il y a eu 6 000 naissances et 8 naissances avec une malformation. Donc, on a un excès en fréquence, en nombre, et il y a une anomalie dans la répartition. Elles sont toutes voisines les unes des autres.
Vous avez signalé justement que l'Agence sanitaire Santé publique France avait exprimé beaucoup de retenue, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que l'état d'esprit des pouvoirs publics a changé dans cette affaire ?
Je pense que la ministre a raisonné vraiment en ministre. Elle a fait conscience des responsabilités de l'État, des attentes des parents qui, depuis le début, n'ont jamais été contactés par Santé publique France. Il n'y a pas eu d'enquête de terrain. Nous n'avons eu que des questionnaires auprès de ces maires. C'est le travail du registre et ses limites aussi. Un registre, il sert à collecter des données, à les saisir, à évaluer les fréquences et à signaler au cas où il y a une anomalie. Mais il n'est pas... Il n'a pas la capacité d'aller enquêter sur le terrain. C'est pas du tout notre métier. Donc, c'est cette mesure-là qui n'a pas été prise par les autorités sanitaires, qui a été comprise, en revanche, par nos ministres de la Santé et de l'Écologie.
Alors, justement, prise de conscience, à côté de cela, du côté des pistes, des explications, est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Amar, on dispose, justement, de suppositions, au moins d'hypothèses, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé?
On pense à un facteur exogène, c'est-à-dire extérieur au maire, qui serait peut-être d'ordre environnemental, mais parce que tous les autres facteurs ont été éliminés. Quand on a un excès de cas comme ça, on se dit qu'il y a une cause qui est intervenue pour qui peut expliquer cette concentration, parce que la probabilité qu'elle soit liée au hasard est infime. On ne peut pas l'exclure complètement, mais elle est infime.
Ça veut dire, par exemple, qu'on a demandé aux mamans si elles avaient pris un traitement, que ces mamans avaient pris le même médicament, qui aurait pu avoir un effet, et la réponse a été négative.
C'est ça. Les traitements, les drogues aussi, parce qu'on peut penser, on a un questionnaire très poussé sur leur alimentation, la boisson, est-ce qu'elles mangeaient des produits de leur jardin, leur profession, les pathologies qu'elles avaient eues et leurs, ce qu'on appelle les antécédents personnels et les antécédents familiaux. Elles ont toutes eu une consultation en vue d'une de repérer une anomalie génétique qu'elle n'avait pas. Donc, tout cela a été bien évalué. Et il ne reste qu'une cause probable d'origine environnementale, mais c'est, pour ce faire, on n'a pas 50 solutions, d'autant plus que le temps presse, ça commence à faire très longtemps que cette exposition a eu lieu. Donc, c'est une double approche, une approche épidémiologique et une approche aussi toxicologique. Donc, il faut vraiment qu'on réunisse une équipe d'épidémiologistes spécialisés dans les malformations, et ça on en a en France, mais on en a aussi à l'étranger, qui se sont proposés de participer aux études, et puis une équipe de toxicologues qui fassent la revue de la littérature et nous disent quels produits sont susceptibles de couper des bras dans le ventre des mères.
Emmanuel Amar, est-ce qu'aujourd'hui, c'est ma dernière question, est-ce que vous considérez comme une lanceuse, je le mets volontairement au féminin, une lanceuse d'alerte?
Alors, Je l'ai dit déjà, mais la lanceuse d'alerte, c'est celle qui va, en dépit de son travail...
Vous, c'est votre travail.
Prendre le risque, c'est ça, d'alerter. Tandis que moi, c'était mon travail. J'ai été payée pour cela. On a, en 45 ans, lancé deux alertes, des paquines et anomalies des bras. Toutes les autres alertes qui nous ont été signalées, nous avons pu les traiter. On a toujours considéré qu'on les avait très bien traitées, ces alertes, parce qu'on en a assez fréquemment. Et là, donc... Alors que je faisais mon travail, l'alerte que j'ai donnée a conduit à l'arrêt des financements, à avoir des embûches. Donc, on pourrait parler d'un lancement d'alerte 2.0, une nouvelle façon d'envisager l'alerte comme étant faisant partie du travail, mais n'étant pas celle qui est demandée.
En tout cas, aujourd'hui, vous continuez bien à faire votre travail. Merci beaucoup, Emmanuel Amar, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes directrice du registre des malformations en Rhône-Alpes. Et merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Priorité Santé. Priorité Santé qui touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est tous à Maquet, Ophélie Lassène, Didier Bleu. Demain, vous retrouverez Diarane Diaye à ce micro pour une émission consacrée à la Journée mondiale du diabète. Vos témoignages, vos questions, bien sûr, comme d'habitude, on les attend au 33 1 84 22 75 75 ou sur la page Facebook de l'émission. On vous donne rendez-vous dès demain matin.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.